Bonjour à toutes et tous, bienvenue à l'émission Regards croisés avec Arlette Farah
et Fulgence Bleu.
Bonjour Fulgence, tout va bien aujourd'hui ?
Oui, ça va bien, merci, avec le beau temps qu'il fait d'ailleurs, la petite fraîcheur en dessous.
Une belle journée fraîche mais ensoleillée, alors moi le soleil ça me donne la banane. Et je vous expliquerai après pourquoi j'ai fait cette expression.
La banane.
En première partie de cette émission, eh bien, on va recevoir Denis Martin Chabot, journaliste, auteur, comédien, qui va nous parler de la diversité au sein de la communauté de LGBTQIA et des défis de Fierté Montréal avec la pandémie.
Et en deuxième partie, notre chroniqueuse de nutrition,
oui.
Louise Thibault, qui va nous parler de la banane et des autres légendes urbaines.
Et voilà pourquoi elle me l'a donnée.
Détails un peu plus tard.
Mais oui, bien sûr. Alors là, on va partir en musique avec un groupe qui s'appelle Bouche B et qui nous chante « Belle bouée ». Denis Martin Chabot, bonjour.
Bonjour, comment vas-tu, Arlette?
Bien,
bonjour,
très
Denis
bien.
Salut, toi, ça va bien?
Oui, je vais bien.
Oui.
Alors, je suis heureuse de commencer cette entrevue avec toi parce que tu vas nous parler, parce que tu as fait une entrevue dans le cadre de l'histoire des droits des femmes.
Oui.
Tu vas nous parler d'une femme qui relève tout un défi, il faut bien le dire. Elle s'appelle Esther Léa Ledoux et elle est la présidente par intérim de Fierté Montréal.
Et oui, Arlette, alors on sait que le mois de mars, c'est le mois de l'histoire des droits des femmes. Le mois avait culminé, on sait, avec le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Alors, on sait aussi que Fierté Montréal, puisqu'on en parle, en plus d'avoir eu à se réinventer à cause de la pandémie de la COVID-19 en 2020,
oui.
Et a dû créer donc une édition entièrement virtuelle, Ben, en même temps, a vécu une crise interne majeure. Alors, je rappelle que son président sortant a dû quitter à une semaine des festivités de l'été dernier, oui, alors qu'il faisait l'objet d'allégations, et je pense qu'il fait encore d'allégations. Et là, je vais m'en tenir qu'à ça, parce qu'il y a une enquête interne qui est en cours. Mais tout ça pour dire que le président était parti, quelques mois plus tôt, c'était le vice-président, puis une bonne partie des membres du conseil d'administration et même d'employés ont quitté Fierté Montréal. Alors, d'accord, c'est la crise, hein? Ça, ça arrive, oui, dans toutes les bonnes organisations.
Et, oui,
et à la croisée des chemins, une femme prend les choses en main, Esther Léa Ledoux, née en France, en région parisienne, d'une famille de Martinique. Esther Léa n'a jamais vécu dans ce pays, hein, la Martinique, mais elle a tout un parcours. D'abord, être une femme lesbienne noire, provenant d'un milieu où ce n'est pas bien vu, et aussi une femme lesbienne noire et catholique. On l'écoute.
Je ne m'acceptais pas du tout, mais alors pas du tout. Et il faut savoir que je suis issue d'une famille, en France, on a l'expression grenouille de bénitier, on appelle ça comme ça. Et donc, voilà, les grenouilles de bénitier, ce sont des familles catholiques, très pratiquantes. Mais c'est vrai que lorsque tu te rends compte que tu as une attirance pour le même sexe que toi, quand tu te rends compte de ça, ça pose un problème d'identité. Tu ne sais pas ce qui est bien, ce qui est mal. Moi, à l'école, on m'a appris à être une bonne femme. Quand je dis une bonne femme, c'est-à-dire à une bonne mère de famille. J'étais vouée à ça, à être une bonne mère de famille. Donc, et ça, c'était dans mon école sixième. Donc, j'avais 11-12 ans. Et puis, c'est à cette époque-là où je suis tombée amoureuse de ma meilleure amie qui s'appelle Sandra. Et je suis tombée dans le déni. J'appelle ça comme ça, je suis tombée dans le déni et j'ai choisi d'être hétérosexuelle pendant des années. Parce que, premièrement, j'avais peur de ce que ma mère allait dire. Deuxièmement, on est une famille catholique, donc pour moi, dans la religion catholique, bah, t'as pas de personne homosexuelle ou lesbienne ou trans. Et puis, il faut savoir aussi qu'à l'époque, moi, des homosexuels noirs, j'en ai jamais vu, en fait.
Eh bien, dis donc, choisir d'être hétérosexuel, c'est vraiment... Ah, c'est fort comme image. Hein.
Ouais, pour ne pas s'attirer la foudre de toute la famille.
C'est ça, et puis surtout, de dire qu'elle n'a jamais connu des personnes LGBT noires, ça en dit long sur la manière dont elle vivait ça. Denis Martin?
Oui, et puis même si sa mère connaissait des personnes gays... Ben, les personnes gays que sa mère connaissait, elles aussi étaient toutes blanches.
Ah oui, c'est ça. Ah, dis donc, ça a dû être dur. Alors, comment oui. Elle a fait?
Ben, on va écouter Léa là-dessus, Esther Léa qui va nous expliquer tout ça.
D'accord.
Ma mère, dans son travail, elle avait toujours elle avait des amis gays qui venaient à la maison, etc. Mais c'était, quand je dis mais c'était des personnes blanches. Pour parler crûment, c'était des personnes blanches. Des personnes noires, t'en voyais pas. Donc, pour moi, ça n'existait pas. Et un jour, on va dans une boîte, ils ont décidé de m'emmener dans une boîte de lesbiennes. Et là, ils me disent, donc là, je ne sais plus c'était quoi le nom, je vois encore la boîte sur les grands boulevards, mais je ne me souviens plus du nom. Et là, ils disent, ah ouais, on va essayer une boîte de lesbiennes, ça va être sympa, etc. Mais en fait, ils avaient parlé tous les deux, mais je ne le savais pas. Et eux, ils n'arrêtaient pas de me dire, mais t'es sûre que t'es pas lesbienne, Léa, t'es sûre que t'es pas lesbienne? Je dis, non, mais moi, je suis pas lesbienne, n'importe quoi. Donc, moi, je répondais comme ça, mais n'importe quoi, non, et tout ça. Mais j'avais dit, parce qu'ils le voient, j'avais déjà eu des petits regards avec des femmes, tu sais, des petits bisous, des petits machins, mais je disais, non, mais moi, je suis pas lesbienne, etc. Et on était dans cette boîte, et puis, c'était vraiment que des bouches blanches, aucune personne noire. Des personnes qui ne m'attiraient pas non plus physiquement. Et en fait, je me suis endormie. Donc, il faut le faire. Hein. Je me suis endormie dans une boîte où tu as la musique boum, 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 jusqu'à 6 heures du matin. Et je me suis réveillée et on est parti chez moi.
Ah, dis donc. Avant qu'on revienne sur son coming out, qu'on en parle, comment elle en a parlé à sa mère? Ça va être ma prochaine question. On va faire une petite pause musicale d'abord.
Tout à fait.
Avec Morgane Imbeau qui nous chante « Je ne vous oublierai jamais ».
D'accord. «
vous supplierait jamais, même si mon monde vous dirait rien. J'avais toujours des pensées pour vos amis, vos frères, vos parents, pour qui moi je n'étais rien du tout. Je n'ai jamais su voler dans le vent. J'ai réparé ma moto bien trop longtemps. Sur le bitume, j'ai laissé traîner. Je crois je roulais trop vite encore. Personne ne viendra m'aider. Je ne vous oublierai jamais. Mais c'est vous qui m'oublierez demain. Ma vie ne vous disait rien de rien. De mon village on voyait tomber les étoiles à moitié nues.
Martin ?
Oui.
Alors, quand elle avoue, enfin quand elle avoue, je veux dire, quand elle parle de sa sexualité, qu'elle se l'affirme, comment ça se passe ?
Ah ben c'est tout un coming out, hein, qu'il faut dire. Esther Léa, donc, annonce à sa mère lors d'une visite à Paris, là, qu'elle est lesbienne. À ce moment-là, Esther Léa vivait au Canada.
D'accord.
Vous dire, oui, je saute beaucoup d'étapes parce qu'elle a tellement une vie passionnante, cette femme-là, qu'on en aurait pour une heure à raconter tout
on
ça.
On n'aura pas le temps.
On n'aura pas le temps. Donc, elle était donc venue vivre au Canada et elle avait pris cause du pays, du Canada, donc pendant ses voyages. Et puis, c'est sûr que lorsqu'on est loin des pressions familiales, elle vivait à Vancouver, ben, c'est peut-être un petit peu plus facile hein, de se retrouver. Et puis, elle s'est liée d'amitié avec un homme gay qui, lui aussi, était catholique comme elle. Alors, on l'écoute.
Faut savoir que ma mère, à chaque fois, elle me disait, et elle ne le disait pas méchamment, ma mère, c'est un amour. Ma mère disait, je prie pour toi, pour que tu trouves un homme, que tu te maries. Que tu fasses des enfants, que tu sois heureuse, etc. Parce qu'elle aussi, elle a grandi avec cette éducation-là. Et quand je lui ai fait mon coming out, elle m'a dit, mais je l'ai toujours su. Et je lui fais, et elle m'a dit, la seule chose que je regrette pour toi, c'est que tu n'étais pas heureuse et tu t'es forcée à aller avec des hommes qui t'ont fait la misère et que tu ne t'es pas acceptée plus tôt. Et elle m'a dit, ça me rend triste que tu ne t'es pas acceptée plus tôt. Et que tu avais peur de me le dire. Et je lui dis, oui, j'avais peur parce que nous sommes une famille catholique. Et je lui dis, moi, je crois toujours en Dieu. Ça a une place très importante dans ma vie. Et on nous a toujours inculqué que Dieu ne nous aime pas parce qu'on aime des personnes du même sexe que nous. Et ma mère, elle m'a répondu, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que c'est bientôt son anniversaire de naissance. Puis ma mère, c'était... un amour. Et quand j'ai dit ça, ma mère m'a répondu, Dieu, il t'aime parce que tu es une enfant de Dieu. Et elle est décédée un an après mon coming out. Puis quand je dis que j'étais proche de ma mère, très proche, c'est que je racontais toutes mes histoires de cul, de sexe, de « Ah, j'ai rencontré un tel, qu'est-ce que t'en penses ? Je te montre la photo. Ouais, cette personne, elle m'a fait ça. » Donc, en plus, quand j'ai fait mon coming out, c'était impeccable parce que je fais « Regarde cette fille, elle fait « Ah non, j'aime pas. » Elle faisait... Elle n'avait pas changé, ma mère. Elle me donnait exactement les mêmes conseils comme si c'était un homme quand j'avais choisi d'être hétéro, sauf que là, c'était des femmes qui ont continué nos conversations. Elle fait « Ah non, elle, je la sens pas. Méfie-toi, etc. » Puis une mère, ça se secoue jamais. Et c'était vraiment drôle.
Et là, c'est fort et en même temps, ça me donne envie de sourire parce que je trouve que c'était bien qu'elle ait continué sa relation avec sa maman. Et oui, c'est à ce moment... Pardon, excuse-moi.
Oui, mais c'est tellement drôle. Tout ce qu'elle raconte, Esther Léa, oui. C'est toujours avec un tel sourire. C'est vraiment une personne extraordinaire. Il faut la rencontrer en personne parce que, oui, on entend tout le soleil et la joie dans sa voix, oui. Mais comme personne, elle est resplendissante. Alors, je nous souhaite à la fin de cette maudite pandémie dont on parle tout le temps, qu'on puisse se voir en personne enfin et rencontrer.
Oui, maintenant, parle-moi de l'implication, de son implication.
Ben, moi, je dois dire là, que c'est toute une implication. Puis je pense que je vais laisser Esther Léa nous raconter tout ça.
Vas-y.
En fait, j'ai commencé mon bénévolat et mon activisme à Vancouver. J'avais trouvé une troupe queer et j'ai commencé à faire le bénévolat pour eux à l'entrée, en vendant les tickets, etc., pendant leur show. J'ai fait mes premiers défilés, mais en tant qu'activiste et en tant que personne de la communauté, parce que les Gay Pride à Paris, tu sais très bien que je les ai toutes faites, hein, à danser derrière les chats, etc. Mais je le faisais en tant que hétérosexuelle, fausse hétérosexuelle. Mais là, j'étais l'activiste. Je faisais partie d'une troupe queer. J'étais la personne lesbienne noire qui défilait, qui revendiquait quelque chose. Et quand je suis arrivée à Montréal, j'ai commencé, comme tu le dis, en gris Montréal. Après, c'était important pour moi de rencontrer les lesbiennes, de voir s'il y avait d'autres lesbiennes noires comme moi, comme j'avais vu à Vancouver. Puis j'en voyais pas beaucoup, en fait. Puis là, je me dis, c'est pas normal. Et c'est tout ça qui m'a fait réfléchir, qui m'a dit, comme je t'ai dit au début, je veux me montrer. Je veux montrer aussi aux jeunes, avec le Gris Montréal, quand j'allais dans les écoles, pour montrer aux jeunes femmes, jeunes garçons et jeunes filles noires, que oui, ça existe. On te dit que ça existe pas, mais moi, je te montre que ça existe. Puis tu vas me dire, ouais, mais Dieu, moi, je te montre que je suis catholique et je crois en Dieu comme toi. Parce que dans les îles, dans les Caraïbes, c'est très rare que tu sois athée. Hein. Si tu n'es pas catholique, tu es évangélique, tu es pentecôtiste ou tout ce que tu veux, témoin Jéhovah, etc. Donc, moi, je vais te montrer que je suis une femme lesbienne, noire, française, caribéenne, je suis martiniquaise, et je crois en Dieu comme toi. Alors, quel va être ton argument pour te dire que moi, je n'existe pas parce que je suis en face de toi? Et si dans ta tête, tu l'es, mais tu ne veux pas le dire, c'est correct. Mais moi, je te montre que ça existe et que tu peux t'accepter aussi comme moi. Et ça, pour moi, ça a été très important dans mon activisme et ça l'est toujours. J'ai découvert le Centre de solidarité lesbienne. Je suis rentrée au CSL, je suis devenue trésorière, puis présidente du CSL. Une autre chose aussi qui était importante pour moi, c'était lutter contre le racisme au sein de notre communauté. Il faut savoir que c'est quelque chose qui me tient très, très à cœur. Et finalement, notre communauté est le monde, mais en plus petit.
C'est vraiment une femme de la situation, Denis Martin. Mais justement, en parlant de la fierté Montréal, qu'est-ce qu'il en est cette année? On fait quoi? Voilà. On voit quoi?
Je faisais un petit peu, enfin, tu sais, ce jeu de mots parce que vous vous rappelez, il y a quelques années, lorsque une certaine Valérie Plante s'était présentée à la mairie, on avait dit qu'elle était l'homme de la situation. Alors, j'aime bien dire que Stéléa, c'est la femme de la situation.
Ben, en tout cas, elle paraît l'être, c'est sûr, mais oui. Qu'en est-il de cette
qu'en
fierté?
Est-il de cette fierté? Ben voilà, ça va avoir lieu cet été. Je sais que le comité d'organisation de Fierté Montréal et à regarder comment les choses vont se passer. Parce qu'on est un peu en entre-deux. Hein.
Oui.
La vaccination, en principe, tout le monde qui veut une première dose l'aurait le 24 juin, mais nous n'avons pas tous obtenu la deuxième dose et on pense que tout ça, ça serait terminé en septembre. Vous voyez un peu le problème.
Hein? Oui.
Fierté Montréal, c'est au mois d'août. Alors, pour le moment, le scénario qui se dessine, c'est que ça va être un mode hybride. Il y aura quelques événements devant des petits groupes. On peut maintenant jusqu'à 250 dans une salle de spectacle. Donc, la moitié de la salle en temps normal. Alors, ça pourrait permettre la diffusion d'événements à petit public. Et probablement que tout sera en même temps diffusé sur par le virtuel, sur YouTube, etc. Et ça, il y a plusieurs raisons à ça. Tu sais, Arlette, beaucoup d'organisations qui font des événements de fierté, un peu comme celle avec laquelle je travaille, qui est Fierté littéraire,
oui.
On s'est rendu compte que nous avions 5, 6, 7 fois le nombre de personnes à nos événements qu'on avait lorsqu'on était en présentiel. Alors ça, c'est à voir. Alors, tout va dépendre, évidemment, des exigences de la santé publique, mais il serait étonnant de pouvoir maintenant annoncer qu'il y aura des spectacles grand public. C'est trop compliqué à organiser, ça ne peut pas se faire à la dernière minute.
Et à gérer.
Oui. Alors, s'il faut qu'on dise, OK, on commence à préparer un événement grand public, un peu comme on faisait les grands parties, là, les grands spectacles au Parc des Faubourgs, ben le problème, c'est que ça, c'est 10 000, 12 000, 13 000, 20 000 personnes parfois. On peut pas avoir ça, là. Et si on peut l'avoir, ben au moment où ça sera décidé, il sera trop tard pour aller chercher toutes ces personnes-là. Et en plus, est-ce que les gens seront prêts à faire fi de tout ce qu'on leur a dit depuis un an et de retourner en grand public? Permettez-moi d'avoir un certain doute pour le moment. Alors, Fierté Montréal va organiser des choses. Ce que j'en sais, ce sera probablement des petits événements en présentiel avec diffusion. Il y aurait peut-être cette année un petit défilé.
Ah oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, pas de défilé, sans défilé, c'est plus vraiment la fierté.
On l'a pas fait l'an dernier, puis il y a des gens qui ont pris l'initiative de le faire eux-mêmes dans la rue.
D'accord.
Alors, il y a des choses qui circulent. Moi, je peux vous dire que ce que je trouverais vraiment amusant s'ils le font, c'est que ce serait une marche, pas de char allégorique, pas trop annoncé d'avance, pas qu'il y ait trop de monde qui se masse sur le long de la rue, mais une certaine présence. Et les gens vont porter le masque, probablement, et se tenir à 2 mètres de distance pendant une espèce de défilé. Une marche comme dans le temps, c'est-à-dire des militants, des groupes communautaires qui reprennent la rue, là, comme c'était le cas dans le temps.
Mais écoute, pourquoi pas, pourvu qu'on en parle?
Oui, parce que c'est un besoin. On se rend compte que la fierté, il y a encore beaucoup d'homophobie dans le monde dans lequel on vit.
Oui.
C'est ça, la fierté. C'est un mouvement politique, d'abord et avant tout. C'est un mouvement de coming out, c'est un mouvement d'affirmation. C'est une affirmation qui est super importante. Oui. Et puis, on se rappelle, hein, on se rappelle jamais d'une fois à l'autre que les premières fiertés, les premiers défis de la fierté, c'était en 70, après les événements, les émeutes de Stonewall. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé, ce mouvement qui est international. Mais c'est très difficile. Hein? Les fiertés dans le monde, hein? Les mouvements des fiertés dans le monde ont beaucoup discuté financièrement avec cette pandémie. Alors, il y a peut-être même des fiertés qui ne vont pas survivre. Et peut-être que d'autres vont commencer.
On croise les doigts, Denis Martin.
Oui.
Et avant de terminer l'entrevue, puis-je lancer une question auquel tu donneras une réponse rapide, s'il te plaît?
Oui, non. Quand il parle de difficultés, de phobie, comment dire, d'organisation, ou bien acceptation de fierté, tout ça, et puis entendre, la responsable intérimaire, là, Esther Léa Ledoux, ça me fait penser à la France, quand les gens sont descendus dans la rue contre le mariage pour tous.
Ouais.
Je n'ai pas dit pour, je dis contre.
Oui, c'est quelque chose, hein?
Mm-hmm. Oui.
Ouais, ça existe encore. Et puis,
oui.
À chaque fois, je dis aux gens, il ne faut pas s'asseoir sur ce...
C'était en France, c'était ni en Martinique, ni en Guadeloupe, ni en Afrique. En France.
En France, de tous les endroits, en France.
Oui.
Eh ben, oui, mais ici, on va quand même avoir le... Peut-être un petit défilé, et en tout cas, on aura le virtuel qui va rester.
Certainement.
C'est ça?
Oui.
Donc,
Mais d'ailleurs, vous savez,
on aura toujours aussi.
Maintenant, le gouvernement vient de dire qu'il n'y aura pas non plus de fête de la Saint-Jean-Baptiste grand public à Montréal.
Ils ont déjà annoncé?
Oui, c'est déjà annoncé. Ce sera une fête virtuelle encore. Ça vient tout juste de sortir. J'ai vu ça sur Twitter tout à l'heure. Alors, c'est comme ça. Et puis, mais l'an prochain, on va se reprendre. Et puis, en passant, je vais être vacciné bientôt, hein?
Le chanceux.
Peut-être que je vais pouvoir aller retourner avec vous, là.
Bravo. Pour l'instant, on n'en parle pas, mais on verra. Alors, on t'embrasse bien fort et puis on te remercie beaucoup.
Vous me manquez, alors je vous embrasse virtuellement avec des gros, gros câlins tous les deux.
Merci.
À bientôt.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Je
voulais dire quelque chose, ça pourrait venir sur ce qui vient de se passer. Je suis très ému. C'est tellement touchant son parcours. Elle, cette jeune femme qui est présidente par intérim. Et puis bon, ben, la situation, comme le disait Denis Martin Chabot, la situation des gens qui tombent en amour avec d'autres personnes du même sexe sur cette planète sont pas encore acceptées par tout le monde entier. C'est triste. Hein. Il y a certains pays où même. Il suffit qu'on voit deux femmes ou bien deux hommes en train de s'embrasser.
Nous habitons le Canada, qui est un des pays les plus ouverts à ce sujet-là, mais Denis Martin reviendra nous en parler.
Oui.
De toute façon, assez régulièrement, il y a des choses qui se font. Là, c'était pour parler plus précisément de la fierté, qui aura lieu sans avoir lieu vraiment, mais quand même un petit peu plus que l'année dernière, donc c'est déjà ça. Alors, restez avec nous, en deuxième partie, on parle banane.
Vous écoutez Regards croisés avec Arlette Farah et Fulgence Blas.
Miedo de la noche.
comme la Lina No Tengas Miedo. J'espère que j'ai bien prononcé, ne me jetez pas des pierres si je suis passé complètement à côté de la prononciation. Voilà, là on a déjà au bout du fil notre chroniqueuse,
oui.
Louise Thibault.
Oui,
voilà,
bonjour.
Qui va nous parler de la banane et autres légendes urbaines. Autres légendes urbaines, on en a déjà parlé à la... au début du mois de mars d'ailleurs, parce que ça fait sa deuxième chronique, voilà. Comme le mois de mars fait 5 semaines. Alors, chronique inspirée de ce livre publié aux éditions de l'Homme, d'une chanson, et puis de son coup de cœur pour un livre paru récemment, bien sûr. Elle est, je le répète toujours, elle est docteure en nutrition, scientifique et professeure pendant 30 ans à l'université. Mais bonjour, Louise Thibault.
Bonjour Louise.
Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous reparler en si peu de temps.
Comment vas-tu, Louise ?
Attention, on a mangé de la banane aujourd'hui.
Ah ben sinon, vous en mangerez demain, c'est certain. Alors voilà, le mois de la nutrition, tire déjà à sa fin. Et vous avez peut-être pris des résolutions pour mieux manger durant ce beau mois. Peut-être que oui, peut-être oui. Que non.
J'ai essayé de rester un peu plus avec les 2 fois poisson dans le mois, dans la semaine, ou bien dans la semaine, oui.
C'est bien, c'est bien.
Ouais, c'est pas mal, non?
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Maintenant, je vais ajouter un peu d'eau au moulin,
okay.
En vous parlant d'autre chose. Je vais vous parler des bananes. Et je vais vous parler d'autres légendes urbaines, à commencer par parler du sucre. Alors, on parle beaucoup du sucre ces temps-ci, on en parle en bien, on en parle en mal, mais surtout, on en parle beaucoup. Et je dirais que certains d'entre vous, en fait, la question m'est souvent posée, est-ce que le sucre rendrait mon enfant hyperactif? Alors, c'est une question qui est très importante par les temps qui courent, parce que les enfants, souvent, ils font l'école à la maison, et puis c'est pas toujours évident de contrôler leur comportement. Alors moi, j'aimerais vous dire que c'est une théorie qui a vu le jour il y a plus de 50 ans. Et oui, on l'appelle la théorie de Feingold parce que le nom du médecin que cette croyance a rendu célèbre, c'est Benjamin Feingold, un médecin américain des années 70 qui prêchait déjà contre le sucre et aussi les additifs alimentaires. Il tenait le sucre et les additifs alimentaires comme les colorants pour responsables de l'hyperactivité chez les enfants. Et même, on parlait de la diète Feingold à l'époque. C'est une diète qui a été très, très populaire. Mais le succès de ce régime-là a commencé à s'affaiblir quand les scientifiques ont mis leur nez dans les études du docteur Feingold. En fait, ce que les scientifiques de la nutrition et du cerveau ont fait, c'est qu'ils ont regardé les études et ils ont refait les études de Benjamin Feingold. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que seules les études où les parents et les professeurs savaient sur quelle diète étaient placés les enfants et les surveillaient étroitement, seules ces études ont été couronnées de succès. Alors que les études où ni les parents ni les professeurs ne savaient sur laquelle des diètes les enfants suivaient n'ont pas bien fonctionné. Alors ce que ça veut dire tout ça, c'est que l'hyperactivité qui serait améliorée par la diète Feingold n'a pas été améliorée par la diète, mais a été améliorée parce que les parents et les professeurs portaient beaucoup attention aux enfants. Ils leur portaient une très grande attention. Ils regardaient ce qu'ils mangeaient et aussi, ils savaient un peu ce que le régime donnerait. Alors ça, dans le langage scientifique, on appelle ça un effet placebo.
Oui.
Intéressant,
ça donne l'intention que ça va guérir ou bien les médicaments placebo, c'est pareil, quoi.
C'est ça. Mais cette croyance perdure, malheureusement.
Malheureusement, oui.
Oui, c'est ça. Mais les recherches scientifiques sur le pouvoir calmant du sucre ont aussi contribué à démystifier cette croyance selon laquelle le sucre cause l'hyperactivité. Et vous vous souvenez peut-être, ou vous savez peut-être que manger du sucre a le pouvoir de produire de la sérotonine dans notre cerveau. J'en ai déjà parlé dans des chroniques précédentes. Donc, la sérotonine a des effets calmants, des effets soporifiques et aussi pourrait avoir des effets antidépresseurs. Donc, tout ça veut dire que les sucres ont leur place dans le menu quotidien, mais il faut consommer certains sucres avec parcimonie. Et c'est un sujet dont je vais vous parler dans une prochaine chronique. Donc, ce qu'on doit retenir de tout ça, c'est que la théorie selon laquelle le sucre rend les enfants hyperactifs n'a surtout pas été prouvée hors de tout doute raisonnable, mais l'attention qu'on peut donner à nos enfants pourrait les calmer. Donc voilà, c'est mon premier sujet. Aujourd'hui. Oui,
avant qu'on ne revienne sur la banane. La banane qui est remplie de légendes d'ailleurs, la peau de banane qui fait
glisser. La peau de banane. Alors, aimeriez-vous que je vous parle
qui fait tomber, ou bien la banane qui fait grossir.
On va en parler. On va laisser nous en parler, mais en même temps, l'attention pour les enfants, juste pour revenir là-dessus, c'est comme une évidence, quoi. Un enfant qui bouge, c'est aussi parce que ça peut être aussi un appel « regarde-moi un peu ». Donc, plus on a d'attention, plus il va se sentir aimé. Quoi. C'est presque...
Oui, puis il va se calmer.
Il va se calmer, oui, ça
oui,
devient presque
évident. Oui, c'est ça, mais ces recherches-là, elles ont été faites dans les années 50, imaginez-vous donc.
D'accord.
Oui.
Je comprends, 50, quoi. Il est temps qu'il y ait du changement qui arrive, donc...
Nous autres, on n'était même pas engornés.
J'ai décidé de vous parler de la banane, parce qu'il y a une chanson que j'aime beaucoup.
On va aller en musique, on va aller écouter la chanson.
Aimeriez-vous l'écouter d'abord?
Ça a été ton choix, oui.
Ah ben oui, alors
on va l'écouter d'abord.
Philippe Catherine que tu as choisi.
Philippe Catherine, c'est ma
collègue ici qui m'a fait découvrir cet artiste et il fait passer une de ses pièces ici, bla 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 bla, comme mon nom de famille. J'étais mort de rire ici. Là, cette fois-ci, c'est la banane. Ça parle de la banane.
C'est une reprise d'une vieille chanson.
Voilà, la banane de Philippe Catherine.
Non, je ne veux plus jamais travailler. Laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller. Laissez-moi, non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi manger ma banane tout nu sur la plage. Oui monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout. Alors, laissez-moi. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi manger ma banane. Non mais laissez-moi
Alors, je m'excuse, tout à l'heure quand j'ai dit une reprise, c'était une chanson de lui, effectivement, mais tout à l'heure on a écouté aussi un petit morceau de Ray Ventura, alors j'avais cru
Philippe,
que c'était...
Philippe Catherine, la banane.
Oui, laissez-moi manger ma banane.
Oui. On attend, j'attends avec les oreilles grandement ouvertes, hein, Louise.
Bah oui, c'est une chanson qui fait sourire et c'est une chanson qui est bonne pour le moral.
Oui.
Il y a relativement peu de chansons sur les fruits. Il y a le temps des cerises, par exemple, mais il y a pas beaucoup de chansons. Mais celle-là. Oui. C'est pas banal. La banane, c'est pas banal. C'est un fruit, en fait, auquel on attribue plusieurs vertus, certaines à tort, d'autres à raison. Et je vais commencer par vous dire quelque chose qui va vous étonner, peut-être. Saviez-vous que la banane contient de la sérotonine? Mm-hmm. Ah oui! La banane contient de la sérotonine. Et on pourrait croire que la banane pourrait nous procurer du bien-être grâce à cette hormone du bonheur qu'elle contient. Mais c'est trop beau pour être vrai. Pourquoi?
Là, on se plante encore, là, ouais. OK.
Et parce que la sérotonine de la banane, elle est digérée. Alors, elle ne peut pas passer à travers la barrière sang-cerveau. La barrière entre le sang et le cerveau. C'est une très grosse molécule. Et c'est la même chose pour les autres aliments qui contiennent de la sérotonine, par exemple l'ananas.
Oui.
Donc, c'est une fausse croyance.
D'accord.
Okay. Mais il y a une autre croyance.
Il faut juste manger de la banane pour être rassasié, point, c'est tout. C'est rassasiant.
Ah ben, c'est rassasiant.
Pas que ça, elle va nous expliquer ce qu'il y a de bon dans la banane. Attends, Fulgence.
OK, on y va. Louise, merci.
C'est rassasiant. Est-ce que c'est aussi rassasiant qu'un steak? Parce qu'il y a une autre croyance sur la banane, c'est que ça équivaut à un steak.
Une banane équivaut à un steak.
Eh oui, et je vois ça dans des magazines, des livres populaires de temps en temps. Donc, comment comprendre ça? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que la banane, c'est un fruit qui contient environ 100 calories, 1 gramme de protéines, très peu de gras et pas mal de sucre.
Oui.
Alors qu'une portion de bœuf grillé contient le double de calories, contient 28 fois plus de protéines, 16 fois plus de gras et pratiquement pas de sucre. Donc, la banane a très peu de choses avec le steak.
Oui.
Bon, alors pourquoi manger ma banane dans ce cas-là?
C'est ce que je disais, parce que moi, ça me rassasie. Allez, on t'écoute, Louise.
Ben oui, vous avez raison.
Oui.
La banane, en fait, elle contient des fibres.
Oui.
La banane contient environ 2 grammes de fibres. Et les fibres, ben, c'est bon pour le transit intestinal, c'est bon pour le cholestérol, mais c'est aussi bon pour la satiété. Et quand on mange la banane, eh bien, on mange de l'énergie qui est très rapidement disponible. Alors, les sportifs, les enfants, les personnes qui souffrent de troubles digestifs, et pour tout le monde, c'est bon. Et saviez-vous que manger une banane mûre, c'est plus digeste que manger une banane moins mûre?
Ah oui.
Et savez-vous pourquoi?
Non, on y va.
Ben, c'est parce que dans la banane qui n'est pas mûre, nous avons de l'amidon. Alors, l'amidon, c'est un sucre qui est moins digeste que les autres sucres.
Oh.
Alors, lors du mûrissement, l'amidon se transforme en sucre plus simple à digérer, en fructose, en glucose et en sucrose. Donc, c'est plus facile à digérer. Dans la banane, comme dans plusieurs autres fruits, nous avons des enzymes qui sont naturellement présents et qui s'occupent de tout ça. Intéressant, non?
Oui.
Très.
Mais manger une banane qui est trop mûre pourrait avoir un léger effet laxatif. D'où la croyance, manger une banane constipe, ça demeure une croyance, ça demeure une légende urbaine.
Ah oui, on a longtemps avalé tout ça. Moi, j'ai longtemps avalé. Alors que moi, je n'ai jamais constipé quand j'ai mangé une banane.
Ben oui. Mmh. Alors, vous savez pourquoi? À cause des fibres. Et j'aimerais ajouter quelque chose parce que j'aime bien parler du cerveau, comme vous l'avez remarqué.
Oui.
Et la banane, elle nourrit notre cerveau grâce à la vitamine B6 qu'elle contient. Alors, il y a de la vitamine B6 dans les protéines animales, comme le steak, mais il y en a aussi beaucoup dans la banane. Et la vitamine B6, elle est essentielle pour la chimie du cerveau, notamment pour notre chère sérotonine, mais aussi pour la formation d'un autre neuromédiateur qu'on appelle le GABA, qui est important pour l'apprentissage, pour les membranes du cerveau et même pour la prévention des troubles neurocognitifs tels la maladie d'Alzheimer. Alors là, je vous parle de recherches récentes sur la chimie du cerveau et la vitamine B6 et donc la banane. Donc, la banane, on en parle beaucoup. Il y a même plusieurs expressions qui utilisent le mot banane, comme « avoir la banane ».
Se sourire jusqu'aux oreilles.
Ben oui, c'est ça. J'ai la banane. On peut dire « j'ai la pêche » aussi, mais moi, je trouve ça plus joli quand on dit « j'ai la banane ». C'est être en forme, être heureux, être de bonne humeur, être souriant. Donc, c'est ce que je vous souhaite. En ce beau mois de la nutrition qui se termine, c'est d'avoir la banane et de manger votre banane.
Merci beaucoup, Louise.
Ben, c'est ce qu'on avait fait aujourd'hui, Louise.
Ben oui, alors c'est tout le temps qu'on a.
Louise, oui, c'est tout le temps. Oui, tu avais quelque chose à ajouter?
Ben oui.
Oui, oui. Bien sûr.
En fait, aujourd'hui, comme mot de la fin, je voudrais vous rappeler que mes chroniques sont normalement inspirées de sujets que j'ai développés dans mes livres aux éditions de l'Homme, mais je regarde aussi tout ce qui se publie sur la nutrition ici et ailleurs, et ce mois-ci, j'ai eu un coup de cœur véritable pour un livre qui s'appelle, écoutez bien, « Cuisiner sans recette ».
Oh, j'aime ça, moi.
Ah, comment je peux cuisiner sans recette? Allez, ben je prends mes choses, je les mélange et puis je m'en vais, quoi.
De Véronique Bouchard, publié à Éco-Société, et Véronique Bouchard, c'est une agronome. Et elle parle des aliments de façon très, très originale et surtout en lien avec l'environnement. Et elle vous parle de cuisine, mais à l'envers. Donc, je vous invite tous à découvrir ce livre original, ce livre qui parle de résilience alimentaire et qui parle des aliments d'une façon tout à fait inusitée. Alors, c'est mon coup de cœur et je vous laisse sur ça.
Merci beaucoup, Louise.
Je vous souhaite d'avoir la banane en lisant le livre « Cuisiner sans
recette ». On l'a déjà, de toutes les façons, quand on sait que tu viens nous voir.
Moi, ça me ramène à mon enfance où j'avais une maman qui cuisinait sans recette.
Et oui. Et
donc, elle était dans la créativité sans arrêt. Et c'était absolument magnifique.
Magnifique. Alors, ça s'apprend. Ouais. Enfin, il faut oser, il faut essayer. Et puis, voilà.
Magnifique. Donc, on regardera de plus près ce livre qui s'appelle donc « Cuisiner sans recette » de Véronique Bouchard, c'est ça?
Exactement.
Merci. Merci. On va essayer de voir. Quelle est la maison d'édition?
Alors, c'est Éco-Société.
Éco-Société. On va essayer de voir si on peut l'avoir en entrevue. Pourquoi pas?
Très bien.
De venir y parler
de son
livre.
Je crois que son éditeur serait très, très heureux.
Oh, ouais. Merci beaucoup, Louise. Et puis, joyeuse Pâques, parce qu'on se verra plus avant les...
On ne se verra plus avant les
journées de Pâques, je veux dire.
Oui, maintenant, ça va être dans le mois d'avril, la prochaine chronique.
Merci de me corriger, on ne se verra pas, ouais, le pas plus, mais on
non,
se verra
pas. Non, c'est ça, et en avril, je vais vous parler du poisson.
Oh. Ah oui?
Et ce n'est pas un poisson d'avril.
Ni un poisson au chocolat non plus.
Pourquoi pas le poisson au chocolat? Mais enfin, je vais vous parler du poisson sous toutes ses formes.
Merci, bonne soirée à toi.
C'est une excellente idée.
Je vous en prie, bonne Pâques à vous tous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Howdy came from Miami, FLA. Hitchhiked away across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and he was a she. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Hey honey, take a walk on the wild side. From the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even
when she was giving head, she said, hey, baby, take a walk on the wild side. Said, hey, baby, take a walk on the wild side. And the colored girl would go. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, baby, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. Streets looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. They said, hey, baby, take a walk on the wild side. She was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Value would have helped that bash. She said, hey, baby, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the color girls go.
Non, j'aime ça. Oui, je le connais avec ce tube, mais c'est qu'il y a plein de tubes encore qui sont très intéressants de la part de cet artiste. Alors, arrête, cette histoire de B6 dont on parlait, oh, onde, ça se trouve
oui,
dans beaucoup
qu'on
d'aliments.
Peut,
oui,
qu'on peut trouver. Voilà, on parlait B6, de la banane, on parlait du foie, on parlait
du poulet,
on parlait des.
Du thon.
Oui.
C'est ce que tu me citais, oui.
Et
oui.
Puis on parlait aussi des graines de sésame dans les graines de sésame, les graines de lin. C'est très très bon aussi. Si jamais vous vous en servez, soit dans vos yaourts, soit dans vos salades, dans des trucs comme ça.
Oui, il y a pas mal de choses
que je
mange.
C'est quelque chose dont je me sers beaucoup. Donc oui, je connaissais la vitamine B6. Mais c'est toujours très intéressant de l'avoir. Et puis je suis très impatiente aussi d'avoir. Madame Bouchard, pour qu'elle nous parle de cuisiner sans recette, ça va me ramener à mon enfance.
Non, c'est vrai, cuisine sans recette. Ok, moi j'improvise souvent des trucs, mais je ne peux pas appeler ça recette non plus. Voilà.
De la cuisine haut de gamme avec sans recette.
Oui.
Juste à l'instinct. Donc je trouve, il y en a beaucoup qui font ça d'ailleurs. C'est là aussi qui est la bonne cuisine.
Nos mamans faisaient la cuisine sans recette.
Dans les plus jeunes aussi. Hein.
Moi, personnellement, je ne peux pas improviser. Bon, j'improvise des trucs, mais je me sers toujours de quelque chose qui est déjà connu. Voilà, il y a une recette qui est là à la base, et puis bon, je m'en vais avec ça quoi, quand je fais de la cuisine. Voilà.
Alors,
ne me demande pas de faire un truc sans...
Je t'ai rien demandé. T'as vu ? J'ai bien trop peur, donc je ne t'ai rien demandé. Je veux remercier Denis Martin Chabot.
Oui.
Voilà, d'être venu puis de nous avoir présenté donc Esther Léa Ledoux. Et puis merci aussi à
Louise Thibault, notre chroniqueuse.
Ben oui, qui vient
de nutrition.
Oui. D'ailleurs, il y en a un qui cuisine bien, c'est derrière toi, c'est Maurice Bolduc. Alors merci à lui et à ses musiques. Aussi, à ce qu'il nous trouve en musique. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis.
Je sais, j'ai déjà reçu du saumon de sa part.
Et puis on se parle demain. À demain, Fulgence.
Qu'est-ce que tu vas y dire la semaine prochaine ou bien quoi? Attends,
à demain.
On se voit demain. Ciao, bonne soirée. Ici,